Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi et c'est la dernière. Et c'est la dernière de la 9e saison. Et je suis très heureux qu'après le passage émouvant et remarqué de Wolfgang Holzmeier, qui est au crépuscule de sa carrière, il va s'arrêter dans quelques mois maintenant de chanter, de donner des concerts, de faire des tournées, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir un jeune duo constitué absolument admirable que Wolfgang Holzmeier précisément et moi-même, ainsi que d'autres personnes, je me souviens du directeur du Wigmore Hall, John Gillooly, ou mon amie Donna Brown, qui est venu ici même dans cette émission il y a quelques années, et d'autres encore, Roger Vignoles, le grand accompagnateur anglais, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce duo qui a remporté haut la main, je dois dire, il n'y avait pas photo, comme on dit, haut la main le concours de chant, de mélodie de Lyon l'année dernière, je crois que c'était en mai 2013, et je voudrais que vous réserviez le meilleur accueil à Cyril Dubois, ténor, et Tristian Raes, piano. Sans plus attendre, nous allons entendre Cyril et Tristan dans quatre œuvres qu'ils ont choisies. Fidile de Duparc, Pace non trovo, qui est un extrait des trois sonnettes Pétrarque de Franz Liszt dans la version chant et piano. Une mélodie de Lili Boulanger qui date de 1914, extraite des Clairières dans le ciel et qui s'intitule Par ce que j'ai souffert. Et enfin, en russe, Muse de Rachmaninov.
Rose. trovo. E non ho da far guerra. E temo e spero. E tardo e sono un ghiaccio.
Morte, vita. Thank you.
Studio 106 pour le matin des musiciens du mercredi. Nous venons d'entendre le ténor Cyril Dubois et le pianiste et son pianiste, devrais-je dire, Tristan Reiss, interpréter quatre mélodies. Fidile de Henri Duparc, Pace non trovo, un des sonnettes Pétrarque de Liszt. Une mélodie de Lili Boulanger, extraite des Clairières dans le ciel et intitulée Par ce que j'ai souffert. Et enfin, Muse de Rachmaninov. Vous aurez noté que Fidile et Muse bénéficient de magnifiques postludes, et c'est justement le sujet qui va nous intéresser dans quelques minutes, puisque je vais vous parler de quelques fins schumanniennes, de Ende vom Lied, de Zum Schluss, Zum Beschluss, et autres postludes inspirés de Schumann. Alors, un petit mot quand même avec Cyril et Tristan. J'ai envie de dire, je ne vous reconnais presque plus depuis mai 2013, parce que je trouve que le duo a encore évolué en symbiose, en folie, en prise de risque. Alors, les concours, est-ce qu'il y a des prises de risque dans les concours? Je ne sais pas.
Oui, c'est vrai qu'on prend en général moins de risques en concours. On prend des parties pris moins tranchées, tout simplement parce qu'on craint parfois la réaction d'un jury face à un parti pris très tranché. Donc, il arrive qu'on arrondisse une interprétation qu'on voudrait plus contrastée.
Oui, c'est sûr qu'on a eu la chance, à la suite du concours donc qu'on a remporté l'année dernière à Lyon, d'avoir pas mal de propositions, et du coup, on a pu avoir l'occasion de travailler un petit peu plus ensemble, découvrir des répertoires qu'on n'avait pas eu l'occasion.
Vous connaissiez depuis longtemps avant?
Depuis 6 ans.
Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble.
Oui, mais alors, il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin, ce qu'on entend, d'abord, une voix de ténor aussi ample, avec une tessiture, on a pu s'en rendre compte dans Liszt, enfin, qui couvre 4 octaves, ou à peu près 3 octaves et demie, du contre-ré bémol jusqu'au mi bémol grave, enfin c'est incroyable. C'est grave. Et puis la palette de couleurs, enfin là, Duparc, Liszt, Boulanger, Muse, enfin c'est très rare en France d'avoir un ténor de cette qualité avec cette amplitude de répertoire, de
merci,
couleurs et d'expression et cet engagement. C'est-à-dire que là, c'est pas un chanteur d'opéra qui se met à chanter de la mélodie. On va se tutoyer, tu es un mélodiste né, enfin tu aimes ce genre. Et Tristan est avec toi, il ne fait qu'un. Enfin.
Ben, je pense qu'on s'est vraiment trouvé sur ce répertoire. Enfin, l'un comme l'autre, on a une attirance, je pense, un peu de prédilection pour ce genre de répertoire. Après, on ne peut pas ne faire que ça. Dans le monde d'aujourd'hui, un chanteur, il est amené à être polyvalent. Et c'est ce qui fait aussi la force de notre duo, c'est que, du coup, comme notre nom de duo l'indique, contraste, du coup, on essaie de balayer un panorama large de répertoire et ne pas s'enfermer dans les choses, je dirais, qui ont peut-être été un peu galvaudées. Et du coup, découvrir justement des nouveaux répertoires et faire des choses qui parfois ne sont pas forcément...
Ouais. Ça, je pense que le Boulanger et le Rachmaninoff, on les a très très peu entendus sur France Musique. Ce sont deux pièces relativement peu données.
C'est possible.
Et quant à Tristan, est-ce qu'il a aussi d'autres cordes à son arc ? Est-ce que tu fais de la musique de chambre ?
Oui,
est-ce que tu joues
sûr.
En soliste ? Ben,
tout comme Cyril fait bien sûr beaucoup d'opéra aussi et qui ne se cantonne pas au leader. Je fais aussi de la musique de chambre avec d'autres partenaires, parfois
par exemple,
en sonate, parfois cette année par exemple avec le violoncelliste Antoine Pierlot ou avec Raphaël Pidou pour un concert.
On connaît.
Et parfois seul en récital ou avec orchestre quand j'ai de la chance, parce que je vous dis que c'est toujours une chance quand même de pouvoir jouer avec orchestre. Mais on est toujours ravis de se retrouver. On fait nos expériences chacun de notre côté et quelque part on enrichit peut-être aussi notre duo de ce qu'on a vécu.
En tout cas, alors on va peut-être dire que je passe de la pommade, etc. Mais moi, un pianiste de chanteur, un pianiste qui joue avec un chanteur à ce niveau, j'en connais très très peu de ta génération. Je trouve ça exceptionnel comme préparation, comme écoute. Et puis, je dirais que tu ne joues pas avec un chanteur, tu chantes avec Cyril Dubois qui est ténor. Et on sent que tout le son que tu inventes, que tu imagines, toutes les couleurs, vont précisément à son timbre de voix, à son phrasé.
C'est-à-dire que c'est ce qui est intéressant, d'abord dans la voix ténor en général, et spécialement chez Cyril. C'est la palette de couleurs, mais aussi tout simplement la possibilité, les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il peut parfois, me challenger dans les pianissimo vraiment les plus extrêmes, et parfois aussi envoyer...
Te défier.
Voilà. Et c'est assez intéressant de se taquiner, à voir jusqu'à quel point on peut descendre dans les pianissimo sans se mettre en danger. Et puis,
qu'on travaille depuis 6 ans ensemble aussi, c'est aussi une grande force pour notre duo. J'espère qu'il y aura encore de nombreuses années derrière.
Mais on le souhaite, et il faut enrichir ce répertoire. Vous avez des concerts cet été ?
Alors cet été, on prend une petite pause tous les deux, mais on reprend l'année prochaine, la saison prochaine, avec les concerts
à
Royaumont, c'est ça. On participe à, il me semble que c'est les 30 ans de Royaumont, et donc on fait partie d'une partie du programme. Donc ce programme va être enregistré aussi un petit peu plus tard dans la saison. C'est un programme autour des musiciens de la Grande Guerre. Et on va avoir l'occasion de...
Donc Lily Boulanger.
Voilà, Lily Boulanger, exactement. Ça va être le gros morceau de notre CD. On va enregistrer l'intégralité des clairières dans le ciel, avec également les odelettes de Ropartz et des inédits de Vélone et de Laprelle.
Enfin, voilà. Oui, il y a des compositeurs vraiment plus méconnus, qui ont composé dans les tranchées. Et
voilà, ça va redémarrer notre saison. Après, on va s'en aller à Venise pour faire aussi le même programme, et Moscou également dans la saison. Et puis aussi Elwig Morhol qui nous a invités à la suite du concours.
John Gilhooly, qui était dans le jury à nos côtés avec Wolfgang.
Qui nous fait le grand honneur de nous inviter.
Magnifique, ça, Elwig Morhol, c'est une pierre blanche dans les carrières.
C'est sûr que ça c'est
la salle idéale pour le récital de chant. Hein. En tout cas, merci de votre visite. Et
merci,
je suis très heureux de vous avoir présenté à la toute fin de ma 9e saison du Matin des Musiciens. Et bon vent à vous, bonne chance, merci. Chacun de vous individuellement et évidemment avec le duo Contraste que vous formez, Cyril Dubois, ténor, et Tristan Reiss, piano. Merci beaucoup.
Merci à vous, très grand plaisir. Merci.
On va continuer en chanson, si je puis dire, puisque toute la fin de cette émission va être consacrée, comme je vous l'ai annoncé, à des postludes schumanniens qui nous réservent toujours des miracles de tendresse, d'effusion, de poésie. Et il me semble que pour commencer ce petit parcours, qui sera forcément non exhaustif, il faudrait que nous écoutions un peu des amours du poète, des Dichter Liebe, de Schumann. On ne va pas tout écouter, mais je vais vous faire entendre la 12e des mélodies, le 12e des leaders, et qui s'intitule « Am leuchtenden Sommermorgen », c'est-à-dire « Par un radieux matin d'été ». Donc je vais flânant dans le jardin, les fleurs chuchotent et jasent, moi je chemine en silence, les fleurs chuchotent et jasent et me regardent avec pitié. Pardonne à notre sœur, ô triste et pâle amie. Et puis, nous enchaînerons directement avec le dernier des leaders du cycle qui s'intitule « Die alten bösen Lieder », c'est-à-dire « Les vieux refrains de misère ». Alors les vieux refrains, les songes méchants et maléfiques, nous allons les mettre en terre, qu'on apporte un grand cercueil. J'y mettrai bien des choses, vous le saurez tout à l'heure, mais il me faut un cercueil plus vaste que la tonne ou le tonneau de Heidelberg. Qu'on me cherche un brancard de planches épaisses et solides et qu'il soit long, plus long que le pont de Mayence. Et puis qu'on m'amène 12 géants et qu'ils soient forts, plus forts encore que le Saint-Christophe qu'on voit au dôme de Cologne sur le Rhin. Ils emporteront le cercueil et le plongeront au fond de la mer, car à ce vaste cercueil, il me faut une vaste tombe. Voulez-vous savoir maintenant pourquoi ce cercueil vaste et lourd ? C'est pour y mettre ensemble ma douleur et mon amour. Et nous écoutons Fritz Wunderlich dans ses deux Lieder, extraits du Dichterliebe de Schumann. Écoutez très attentivement, vous allez entendre quelques analogies.
Christoph im Dom zu Köln am Rhein.
Nous avons entendu deux Lieder extraits des Amours du poète, Dichter Liebe de Robert Schumann, par un radieux matin d'été, Am leuchtenden Sommermorgen, et le dernier du cycle, le 16e, Les vieux refrains de misère, Die alten bösen Lieder. Et on part du grave du piano, quand justement le poème évoque, ce poème de Heine, évoque le cercueil dans lequel sont réunis douleur et amour, sa douleur et son amour, et de ces accords sépulcraux vont tout à coup s'échapper ces notes qu'on avait entendues dans le Lied précédent, le 12e, par un radieux matin de printemps. Comme si vraiment ne subsistait que la lumière de cet amour. Seul le soleil et pas l'obscurité. Et alors que ça pourrait se terminer, voilà. Tout à coup, un autre morceau va se greffer, presque individuel. Et quelque chose comme un récitatif. Et Schumann indique de garder la pédale pour que ça vibre, que ça résonne. Et le poète s'enhardit. Toujours avec Schumann, la réitération. Et en volume aussi, et encore une fois. Et plus haut, plus de lumière. Et on n'en peut plus de conclure, on n'en finit plus de conclure. Il y a un océan de félicité. Ce ré bémol majeur totalement lumineux, paradisiaque. Enfin, il y a un bonheur. Enfin, c'est vraiment une happy end qui part de très très loin, parce que les derniers accords, ça aurait pu se terminer comme ça a commencé d'ailleurs. Hein. Avec ce côté très agressif. Là, c'est quelque chose de méchant, de... faut pas, même pas que le son soit très beau, faut que ce soit presque percussif, acariâtre, enfin, il y a quelque chose, dit Bösen, dit Alten Bösenlieder, déjà tout est dans le titre, hein, dans la musique même qui va en découler. Alors quand arrive justement cette période de legato, c'est du sirop de sucre, ça. Avec la légère palpitation provoquée par le retard, parce que la banalité aurait voulu ceci. Je suis si peu habitué à le faire que voilà, qu'on ait vraiment le chant en même temps que la basse. Schumann le décale légèrement et ça ajoute une palpitation, un battement, une émotion, une surprise. Et c'est tout à fait écrit, il faut le faire, le petit décalage. On l'a d'ailleurs presque de la même manière dans le début de l'Humoresque, une pièce qui m'est chère et dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Le début de l'Humoresque, on a ce petit décalage, alors plutôt sur la fin du thème, mais qui nous rappelle d'ailleurs par son écoulement le postlude de Dichterliebe. Au lieu de faire, Schumann fait en sorte qu'on ne répète pas la note qui est légèrement en avance du temps final, du temps conclusif, c'est-à-dire au lieu d'avoir, il fait. Et voilà, on est comme en suspension. Il y a quelque chose de tellement magique dans cette légère attente. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très subtil. On ne doit pas exagérer cet effet. Et d'ailleurs, Schumann indique diminuer sur cette fin de phrase et moi, je me suis toujours demandé, connaissant l'amour que Schumann portait à Schubert, s'il n'avait pas écrit diminué à la manière de Schubert. C'est-à-dire que quand Schubert écrit dim, D-I-M, point, ça ne signifie pas de diminuer la dynamique, mais ça signifie d'assouplir la fin de la phrase, de la légèrement ralentir, sans que ce soit un ritenuto volontaire, quelque chose qui soit comme ça cartésien, juste une souplesse, comme on dit dans la musique. Donc, voilà. Et cette souplesse permet de recevoir la magie, le côté tellement intimiste et tellement palpitant, mais à l'intérieur de ce petit retard en avance, en vérité, hein, que la note finale de la mélodie précède d'une fraction de seconde, d'une fraction de battement, de palpitation intérieure, la basse conclusive. C'est merveilleux comme c'est écrit ça. Et il recommence, comme toujours, hein. On redit toujours chez Schumann, on ne se lasse pas, surtout quand on a affaire à une si belle mélodie. Là, c'est le développement de la première page de l'Humoresque, mais ça a un peu à voir dans ce débit, dans cette manière d'écouler le thème, ce chant qui est vraiment célébré, mais avec si peu de moyens, avec une telle discrétion. Et c'est marqué aussi, comme dans les Dichterliebe, pédale. Il faut mettre de la pédale pour que ça vibre, pour qu'il y ait un halo. Et alors, cette Humoresque, elle me tient particulièrement à cœur parce qu'elle a un immense postlude. Et quand j'ai fait les ateliers consacrés à l'humoresque au début de cette 9e saison, nous n'avons même pas eu le temps vraiment de parler du Zum Beschluss, pour finir. Je les voulais faire entendre, mais je n'en ai pas tellement parlé. Et c'est une page déchirante. On parlait, souvenez-vous, la semaine dernière avec Wolfgang Holzmeier dans Schubert de la Sehnsucht, des multiples facettes de la Sehnsucht, de cette nostalgie qui n'en est pas une, avec cette aspiration, cette énergie, cette palpitation, ce regard en arrière qui, justement, fait surgir cette mélancolie, mais qui ne fait pas oublier qu'on doit quand même aller de l'avant. Alors, Schumann, d'abord, c'est plus la même génération. Là, on est en 1838, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Schubert, et on est en plein romantisme, alors que Schubert, on en est, sinon aux prémices, du moins, pas là où vont nous mener les Schumann, Liszt, Chopin et Brahms, bien sûr. Mais on a avec Schumann quelque chose qui n'est pas chez Schubert, c'est cette répétition. Cette répétition... Il y a la déambulation du marcheur, du wanderer, du poète, je dirais plus du poète, ça a plus à voir avec la poésie, avec des pensées qui s'échappent de vous-même. Vous êtes devant un paysage et vous laissez aller votre rêverie, vos pensées, et elles suivent des méandres qui n'appartiennent qu'à vous. Et puis, on est bien obligé de se retrouver à un moment donné face à la réalité. Mais Schumann, justement, Schumann ne sait pas conclure, il ne sait pas. Et alors, plutôt que d'aller vers la conclusion, il va refaire tout le chemin inverse une deuxième fois pour tenter d'aller vers cette impossible conclusion. Alors, je vais vous jouer ce Zum Beschluss qui conclut l'humoresque. Et je dois dire, après une page très particulière, très étrange, qui est intitulée « Mit einigem Pomp », avec une certaine pompe, et qui est très accentuée, avec une sorte d'orchestre fantomatique, une procession qui arrive devant vous et qui repart d'une manière très hiératique. Alors je vous joue la fin de ce « Mit einigem Pomp ». Thank you. Donc là, je viens de vous jouer le Zum Beschluss pour conclure, en guise de conclusion, de l'humoresque, opus 20 de Robert Schumann, avec, vous l'avez entendu, tout ce premier épisode intégralement répété, et puis ce poète qui est pris dans la nasse, enfin qui n'arrive pas à trouver de porte de sortie, notamment dans la partie centrale de cette pièce, quand... avec beaucoup de points d'orgue, c'est-à-dire des points de suspension, on doit retenir le son... Encore des points d'orgue, adagio. Là, on pense qu'on a peut-être... Alors, on pourrait attendre. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une cadence évitée. Voilà, il évite la terminaison. Pour faire... Alors, de nouveau, point d'orgue, point de suspension. La voix masculine... Nouveau point de suspension, de nouveau la velléité d'aller plus loin. Alors on se dit qu'après cet accès et cet accent aussi de colère, mais où suis-je, où vais-je, qu'est-ce qui se passe, où dois-je aller? Alors là, des accords très compliqués qui tournent sur eux-mêmes. Ah, on pense qu'on a une porte de sortie. Et de nouveau, très enchevêtré. Très chromatique. Ah, alors on se dit, voilà, on approche du but. Et c'est là qu'il reprend entièrement l'épisode. Bon, je ne vais pas vous le rejouer une quatrième ou une troisième fois. Et ce qui est bouleversant, c'est quand il la trouve, la porte de sortie. Cet immense postlude qui est un ressassement. Alors, je ne dirais pas qu'on est au comble du désespoir, mais il y a cette errance, on se cogne aux portes, on ne trouve pas le soleil. on est prisonnier de son rêve. Vous savez, ces rêves matinaux où on ne se sort pas d'une espèce de gang de choses qui se répètent et qui continuent à répéter et qui finalement provoquent le réveil. Et c'est ce qui va se passer. Mais en même temps, là où c'est tout à fait bouleversant, c'est qu'il y a chez Schumann le masochisme propre au romantisme. C'est-à-dire qu'on s'y complaît tout de même dans cette errance, au point de la répéter. Et donc, quand il va falloir s'en dégager, quand il va falloir partir, Schumann ne peut pas conclure. Là aussi, il va multiplier les points de suspension, les points d'orgue, les arrêts, les ritardando et autres pianissimo. Il y en a à foison. Et donc, on est là, donc toujours avec cette cloche aussi, ce gong que vous avez entendu, qui nous rappelle d'ailleurs d'autres cloches dans la fin des Fantasia Stücke, opus 12, où Schumann compare ces cloches à des glas qui évoquent la mort. Donc après, de nouveau, voilà, ça y est, nous sommes sur le si bémol majeur, après avoir été tellement chromatique avec tous ces accords compliqué au niveau harmonique. Je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais nous voici sur une immense quinte, là, la basse, mezzo forte. Donc, tout devrait s'achever ici. Voilà, et puis peut-être... Mais voilà, ça s'appelle Robert Schumann, humoresque, donc ça ne peut pas se terminer d'une manière en queue de poisson comme ça. Et comme s'il s'agissait d'une dernière expiration avant la prise de conscience qu'il va falloir partir. Et d'ailleurs, vous allez entendre que toute la ligne qui suit est dans un principe ascendant. Forte, comme si on se réveillait de ce mauvais rêve, mais en même temps des délices de ce mauvais rêve. Un instant surpris, point d'orgue, point de suspension, silence. On se le redit une deuxième fois. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut vraiment que j'y aille, que je me réveille, que je rouvre les yeux, que je remette ma conscience au niveau des choses tangibles, contingentes? Et Schumann nous met des points, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait lié. Il y a la palpitation toujours. Encore un point d'orgue, encore un point de suspension, encore un silence. Et là, pianissimo, en retardant, là vraiment, je dirais que ça va être justement le point de rupture, l'arrachement. Et on va profiter une dernière fois du chromatisme. Mais le rêve est déjà loin. Voilà, il est parti avec nous et tout à coup, il va y avoir ce point de rupture allegro. Et alors là, toutes les notes, ça c'est le langage cher à Schumann, accentuées. Il n'y a que des notes accentuées à la main droite. Vous allez l'entendre, toutes les octaves. Alors là, il n'était pas économe. Il y a des sforzando, c'est-à-dire vraiment le son très renforcé. Et puis, toutes les octaves qui suivent, chromatique, accentué, et puis la main gauche n'est pas en reste, elle est notée fortissimo, et puis alors ce sont des saccades, des à-coups, des secousses. Je dirais qu'il faut emplir son piano de sonorité. Il faut même confondre les sons parce qu'il y a les cloches, encore une fois. Ça se met à battre à toute volée. Votre cœur bat la chamade. Vous partez. Vous étiez dans un état de torpeur. Le cœur s'était à peu presque ralenti son rythme. Vous étiez complètement possédé par ce rêve, par ces errances comme ça de demi-conscience, de demi-sommeil. Et tout à coup, il faut se remettre, voilà, au rythme du jour, au rythme du soleil. Et on part. guitare et tout doit battre comme ça. Et c'est pour ça, moi, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédales. Ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il nous l'indique, Schumann. Pédale, pédale. Deux fois, il nous indique pédale. Hein. Donc, il ne faut pas du tout être avare et jouer ça comme ça avec un petit son pet sec. Il faut vraiment que ce soit extrêmement fort et puis décidé et presque asséné quand on a... dominante tonique, hein, j'en ai beaucoup parlé dans ces émissions, cinquième degré, premier degré, si bémol majeur, la tonalité. Hein. N'arrête pas jusqu'au bout, hein, sforzando fortissimo avec des accords très chargés, très fournis. Ah non, mais c'est une fin ravageuse, terrible enfin, en même temps terrible parce que il y a les cloches, il y a certainement cette course comme ça où on se relève, cette marche vers un futur, enfin on ne sait pas très bien, mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose de sardonique, quelque chose de cruel dans toutes ces... Comme s'il y avait des diables autour hein, qui vous poussaient vers la sortie. En... Comme ça, quelque chose de très théâtral, de terrible, qui poursuit quand même. C'était peut-être échapper de ce rêve. Échapper de ce rêve et qui vous poursuivent quand même jusque dans la réalité. C'est humoresque de Schumann. Je vous parlais des Fantasies Stücke opus 12 de Schumann, évidemment, avec cette dernière pièce, Ende vom Lied, hein, la fin de la chanson, la fin du chant. Je ne sais pas très bien comment traduire vom Lied, Ende vom Lied, la fin du chant. Mit gutem Humor, avec bonne humeur, bien que humor en allemand, là aussi, c'est toujours comme Sehnsucht, comme Wanderung. On ne sait pas très bien comment traduire ça en français, parce que ce n'est pas la bonne et la mauvaise humeur, la humor à l'allemande. Hein. C'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Alors, il peut y avoir un état d'âme terriblement dépressif, et ce sera pourtant humor. Et puis, il peut y avoir quelque chose d'enjoué, de décidé, d'exalté, et ça peut être aussi humor. Et là, mit gutem Humor, il y a quelque chose de rustique, de paysan dans cette fin. Après cette marche, on est pris dans une sorte de farandole. Je ne vais pas vous la jouer en entier, mais... Voilà, là encore très rustique, très citadine. Alors, bien sûr, on pense tout de suite au carnaval de Vienne. Voilà, que Schumann a écrit. On pense à la fin du carnaval de Schumann. Bien sûr, le carnaval, il y a le carnaval de Vienne et la fin du carnaval. On va écouter cette marche des compagnons de David, parce que là aussi, il y a quelque chose de très martial, avec des accords magnifiques, et puis tout s'emballe. Hein. Écoutez, c'est Cédric Péchia qui joue cette fin de carnaval. Thank you. Cédric Péchia déchaîné, et il le faut d'ailleurs, une prise de risque insensée dans cette fin du carnaval de Schumann. Je vous recommande cette version que j'avais passée intégralement il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez la trouver chez Claves. Pour moi, c'est la plus belle version du carnaval de Schumann, la plus inventive, la plus imaginative. Enfin, on renouvelle complètement l'écoute. Cédric Péchia renouvelle complètement l'écoute de ce carnaval qui est archi, archi, archi rabâché, rebattu partout, dans tous les concours, etc. Et lui apporte un air frais, et vous l'avez entendu, cet air frais, hein, cette danse infernale à la fin, et avec quels moyens pianistiques. Donc, fin du carnaval de Schumann. Alors, tout ça pour enchaîner et revenir plus exactement à cette Ende vom Lied des Fantaisies Stücke opus 12 de Schumann. Tout ça, au fond, se tient à quelques années. Hein, parce que après cette marche et l'épisode central, la farandole que j'ai juste esquissé, alors de nouveau, il reprend le thème, je vais vous l'épargner, je vais vous jouer juste les 4 dernières mesures, et vous allez entendre là ce qu'il appelle la coda, qui est un véritable postlude. C'est, je dirais, la Ende vom Lied, la fin de la fin du chant. Hein, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, il écrit deux traits verticaux entre la marche, la fin de la marche, fortissimo. Schumann écrivait à propos de cette fin: à la fin, tout se résout par de joyeuses noces, et pourtant, avant la fin, revient la douleur quand je t'évoque, et cela sonne comme le mélange des cloches du mariage et du glas de la mort. Je vous en parlais tout à l'heure. Et c'est fou, comme vraiment d'un instant à l'autre, on change de pulsation, on change de rythme, on change d'espace. Autant on est dans le présent de l'indicatif, au milieu de cette danse de campagne ou de ville, avec du bruit, avec la foule, avec le nombre. Et puis, voilà, les cloches qui battent à toute volée, les gens qui crient, qui chantent, qui dansent. Enfin, il y a cette idée du nombre. Ça me fait toujours penser à une scène d'un grand film muet, un des chefs-d'œuvre du muet de Murnau, l'Aurore, Sunrise, où on a les personnages qui arrivent dans une fête foraine. Et alors, il y a beau pas avoir de musique, il y a une telle activité sur l'écran qu'on crée soi-même, en soi, sa propre partition symphonique. On entend les trompettes, on entend les tambours, les caisses claires, les cris des gens, les chants des gens, les petites trompettes d'enfants qui gueulent. Voilà. Enfin, Et ce qui est génial dans cette partition de Schumann, c'est la manière dont la volte-face s'opère, c'est-à-dire subitement, ça se termine très abruptement, et on s'enfonce dans le souvenir, parce qu'il note piano, pianissimo, avec des accords de plus en plus chargés. Là, j'ai déjà 5 sons sous les doigts, maintenant je vais en avoir 6, et triple pianissimo. Alors peut-être les voilà, les glas dont parle Schumann là. Là, j'ai 7 sons. Et puis, l'ébauche, le rappel fantomatique de... ce qu'on avait eu si fort, si martial, juste avant. je peux pas ne pas évoquer du parc en parlant de postlude, parce qu'en plus on a eu tout à l'heure avec Fidilé par Cyril Dubois et Tristan Reiss, on a eu un des plus beaux postludes qui soit dans la littérature de mélodie. Mais alors il y en a un autre, c'est dans La vie antérieure, sur un poème de Baudelaire. Parce que là, c'est de lui qu'il parle, Henri Duparc. Vous savez, ce grand neurasthénique qui écrit sa dernière œuvre à moins de 40 ans, La vie antérieure, et qui pendant 50 ans ne va plus rien écrire du tout, pratiquement. Et j'avais expliqué au cours d'un atelier précédent, il y a quelques mois, que si on faisait un raccourci, un télescopage assez spectaculaire et que d'aucuns qualifieront d'artificiel, mais en tout cas moi je le fais. La poésie, j'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques, etc. Et puis il y a la fin. La fin, c'est au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Eh bien, je me demande si Duparc n'écrit pas ce postlude que je vais vous jouer pour lui-même, avec cette douleur immanente, avec cette tristesse infinie dont il emplit la musique. Parce qu'on peut, me semble-t-il, ramener le poème à un vers avec la première partie du premier alexandrin et le dernier alexandrin, le secret douloureux qui me faisait languir. J'ai longtemps habité le secret douloureux qui me faisait languir. C'est tout à fait possible quand on sait à quel point cet homme a souffert dans sa chair et dans son être de ne pas être en mesure de composer et de détruire systématiquement toutes les œuvres qu'il écrivait, ou alors de passer 10 ans sur 3 pages de musique. Et la fin, le voilà, le secret douloureux. Qui me faisait languir. La mélodie s'achève ici avec le chanteur et tout à coup le piano prend la parole comme une déploration, comme si le poète voulait ajouter, comme si Duparc voulait ajouter. Rappelé juste d'une manière elliptique, jusqu'à l'engloutissement, jusqu'au silence total, absolu, jusqu'à sa mort. On va conclure tout de même cette dernière émission de la 9e saison d'une manière un tout petit peu plus souriante, avec un autre postlude schumannien très inattendu. C'est à la toute fin des Davidsbündler Tänze, les danses des compagnons de David. On en a eu un exemple des danses des compagnons de David, puisque c'est à la fin du carnaval, mais les Davidsbündler Tänze, c'est toute une série d'épisodes poétiques où Eusebius et Florestan, les deux personnages, les deux marionnettes de Schumann, jouent de concert tout au long de ce morceau vaste, qui dure presque 40 minutes. Et alors, je vais vous faire entendre, on va dire, la dernière pièce avant la dernière. La dernière pièce qui est une méditation qui peu à peu s'emballe, une rêverie qui peu à peu devient de plus en plus tourmentée, et puis, une sorte de petit postlude irréel, surréaliste, une petite valse. Et ce sera notre ami, cher Thierry de Brunhoff, qui joue cette fin des Davidsbündler Tänze de Schumann. Thank you. La fin des Davidsbühnenlertänze de Robert Schumann, interprétée par Thierry de Brunhoff, et qui conclut notre dernière émission de la 9e saison. Je vous retrouve dès lundi prochain, 7 juillet, et tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, à la place du Matin des musiciens. Et je vous parlerai d'une manière très détendue et très anecdotique de tous ces chanteurs et chanteuses avec lesquels j'ai pu travailler au cours des 25-30 dernières années, et au fond depuis mes années à Vienne. Et donc, bien sûr, Wolfgang Holzmeier sera de la partie, mais aussi Christa Ludwig, Eric Verba, mon professeur de lead. Et puis, on remontera comme ça les années. Et il y aura Véronique Dietschy, Catherine Dubosc, Donna Brown, Stéphane Gens, Angelika Kirchschlager et bien entendu Nathalie Dessay. Mais ça sera pour la deuxième quinzaine d'août, parce que la même chose se produira au milieu du mois d'août, la semaine du 15 août. Là aussi, toutes les matinées, du lundi au vendredi, je vous parlerai, je continuerai l'histoire de ces collaborations qui sont devenues bien souvent des amitiés très profondes et très permanentes. Je voudrais vous remercier, public du Studio 106, pour votre fidélité à toutes ces séances d'enregistrement tout au cours de cette année. Et je voudrais remercier très particulièrement mon équipe aujourd'hui, à la prise de son Jean-Michel Bernot et Delphine Baudet, à la sonorisation Romain Lenoir, aux éclairages Olivier Dupontois et Gérard Savary. Le piano, c'est le fidèle Léo Duroy qui l'a réglé et accordé. Jean-René Bonissant m'a aidé à préparer cette émission. Et bien entendu, je remercie amicalement Marie Groux qui a réalisé cette, voyons voir, 390e émission du Matin des musiciens. Merci à vous et à la semaine prochaine, à lundi prochain, 11h.